Aujourd'hui, la réflexion sur le centre eucharistique du chemin de la perfection que nous avions déjà amorcé hier. Nous allons ensuite voir la question du pardon des offenses. Terminer donc le point 5. Nous avons le point 6 à faire et nous avons aussi un léger test pour la validation de ce cours pour tous les participants. Quelle que soit la situation, légale ou illégale. Donc, il y aura un petit test de 10 minutes, un quart d'heure pour valider le cours. Je dois donner une note. Quand vous avez participé, assisté au cours, ce sera forcément 6, entre 6 et 10, ça c'est clair. Et puis après, je vous demanderai de prendre une feuille, je vous pose une question, vous répondrez avec vos notes, comme vous voulez, et puis vous... Je noterai, puis je mettrai les notes au secrétariat, puisqu'il faut valider tous les cours maintenant, chaque cours, chaque session au studium, pour tous les participants qui peuvent, peut-être pas en ce moment, mais plus tard, en avoir besoin pour aller je ne sais où, dans quelle université, pour avoir des équivalences. Donc, tout le monde le fera. Même les auditeurs libres et les auditrices libres. Nous commençons avec ce point que j'avais intitulé, s'il vous plaît. Donc, vous reprenez votre tableau, vous avez votre plan. Entre deux demandes difficiles, que ta volonté soit faite et pardonne-nous comme nous pardonnons. Le Seigneur a inventé un moyen admirable, remède à notre faiblesse, pour nous montrer l'extrême de son amour et réveiller le nôtre, nous inciter à nous donner à sa volonté. Donc, ce point, nous l'avons déjà abordé. Nous allons aborder la suite. Alors, j'ai donné un certain nombre de clés, vous allez voir, nous lirons quelques textes aussi, pour voir quel est ce centre eucharistique du chemin de la perfection, quelles sont les dimensions de l'Eucharistie contemplées, relevées par Thérèse, soulignées par Thérèse. Elle ne dit pas tout, évidemment, elle ne fait pas œuvre de théologienne, mais comme contemplative, comme fondatrice et réformatrice, comme éducatrice aussi, elle met en relief certains aspects. Alors, je vous ai mis l'amour silencieux de Jésus, serviteur dans l'Eucharistie. Il continue son offrande et il y subit encore des outrages, comme dans sa passion. Chapitre 33, paragraphe 4 et 35, 3 et 4. Jésus est serviteur dans l'Eucharistie. Il continue le service accompli dans sa vie terrestre et dans sa passion. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et le mot employé par Thérèse est le mot servidumbre en espagnol. Donc le service, le fait de servir, d'être serviteur. Au fond, ce qu'elle va exprimer pour nous, c'est la dimension sacrificielle de l'Eucharistie et qu'elle-même perçoit avec plus de force, une acuité plus grande en raison des profanations du Saint-Sacrement fréquentes, notoires, en Allemagne, en France, dans les Flandres, avec la réforme, la protestation de la réforme. Il y avait donc des profanations et c'est vrai que la propagande royale de Philippe II dramatisait cela en donnant ces nouvelles-là. Mais très profondément pour Thérèse, Jésus continue son offrande silencieuse dans l'Eucharistie et il y subit des outrages comme dans sa passion. Il se tait à tout. N'y aura-t-il personne pour défendre cet agneau si doux? Il se glorifie d'être esclave, son père le laisse servir chaque jour. Et Thérèse va intercéder auprès du père pour qu'il défende son fils serviteur dans l'Eucharistie. Voyez un petit peu l'approche de Thérèse. Elle redira au chapitre 35, on va lire ça, qu'il ne soit pas tant maltraité. Puisque son Saint-Fils nous a donné un si bon moyen pour que, en sacrifice, nous puissions l'offrir très souvent. Donc c'est évidemment cette dimension sacrificielle de l'Eucharistie. L'Eucharistie représente le sacrifice unique, définitif du Christ sur la croix. Elle est en même temps offrande de l'Église et de chacun de ses membres. Le chemin de l'Escorial est plus dramatique sur cette question, plus explicite. Alors, lisons ces deux textes, si vous voulez. Qui peut faire, là, avec l'édition, la bonne édition? La bonne édition, donc 33.4 et 35.3.4 du chemin de Valladolid. Alors, y a-t-il des gens Vous l'avez trouvé? Tu l'as trouvé, Antoine? Tu peux y aller? Merci.
Mais toi, Père éternel, comment y as-tu consenti? Comment permets-tu que ton fils se trouve tous les jours en des mains si indignes? Pour une fois que tu l'as permis, que tu y as donné ton assentiment, tu as vu en quel état on l'a mis. Comment ta tendresse peut-elle le voir chaque jour, oui, chaque jour, en but à tant d'outrages? Combien n'en prodigue-t-on pas aujourd'hui à ce très saint sacrement? Dans combien de mains ennemies en es-tu venu à le contempler? Que d'irrévérence de la part de ces malheureux hérétiques!
Alors dans le texte, il n'y a pas malheureux, hein? Hérèges, estos hérèges. Oui, estos hérèges, oui, c'est hérétique, hein? Bon. Tu peux continuer parce que moi, je n'ai pas tout à fait la même numérotation, donc ton paragraphe continue? Ouais, c'est bon?
Au monarque éternel, comment...
Non, il n'y a pas de monarque, au Seigneur éternel?
Mais je suis désolé.
Monarque. Très bien.
Comment accueilles-tu une telle demande? Quand l'exauces-tu, ne considère pas l'amour qui presse ton fils. Pour accomplir parfaitement ta volonté et nous faire du bien, il se laisserait mettre en pièces chaque jour. C'est à toi d'y veiller, ô mon souverain, car quant à ton fils, rien ne l'arrête. Pourquoi tout le bien qu'il nous fait doit-il lui coûter si cher? Parce qu'il ne répond à tout que par le silence, qu'il n'ouvre pas la bouche pour défendre ses intérêts, mais pour défendre les nôtres seulement, ne se trouvera-t-il personne qui élève la voix en faveur de ce très aimant agneau? Une chose m'a frappé. Dans cette seule demande, notre Seigneur redouble une même expression.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, hein?
Il commence en demandant que ce pain nous soit donné ce jour, puis il ajoute, donne-le-nous aujourd'hui, Seigneur. C'est comme s'il représentait à son Père qu'il nous a été donné une première fois afin de mourir pour nous et qu'ainsi il nous appartient déjà, comme s'il lui demandait ensuite de vouloir bien le laisser avec nous jusqu'à la fin du monde afin de nous servir chaque jour. Qu'une telle prière vous attendrisse le cœur, mes filles, et vous enflamme d'amour pour votre époux. Il n'est pas d'esclave qui se plaise à s'avouer tel, et voilà que Jésus paraît s'en glorifier.
Bien, je ferai une toute petite remarque sur la traduction. Dans le texte espagnol, c'est bon, dans l'espagnol classique, c'est clair, mais c'est en bosch, c'est-à-dire vous. Donc, je suis un tout petit peu étonné qu'on ait mis ça en tu. Je sais pas comment c'est dans les autres, mais voilà, ce serait plus, je pense, plus respectueux du texte. Hein. C'est une invocation à vous. Très habituellement, Thérèse tutoie non pas le Seigneur, mais son âme. Le « tu », c'est pour son âme. « Oh, mon âme, que ne fais-tu » etc. Hein? Ce tutoiement, il s'adresse à elle, à sa propre intériorité. Et jamais au Seigneur lui-même. Hein? C'est toujours en vous. D'accord? Bon. Surtout qu'il est question de respect. Donc, vous voyez, donc c'est assez étonnant qu'il s'est... que c'est traduit par un tu comme ça. Ça fait un peu voilà dans la bouche de Thérèse dans cette langue du XVIe siècle. Vous avez donc vu hein, cette dimension de service et de sacrifice dans l'Eucharistie et cette continuation du silence du service du Seigneur dans la présence eucharistique, dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Alors nous pouvons lire aussi, si ça ne t'ennuie pas, Antoine aussi, donc 35, 3 et 4. Merci d'avance.
Père Saint qui es aux cieux, il était évident que tu ne rejetterais pas une demande si avantageuse pour nous. Et puisque tu l'as agréée, que tu y as consenti, il est juste, je le disais tout à l'heure, que quelqu'un élève la voix en faveur de ton Fils, toujours muet pour lui-même. Eh bien, que ce soit nous, mes filles, c'est de la hardiesse sans doute, étant ce que nous sommes. Mais appuyés avec confiance sur le commandement que notre Seigneur nous a fait de demander, adressons au nom de Jésus nos supplications à la Divine Majesté. Représentons au Père Céleste qu'en accordant au pécheur un pareil bienfait, son Fils a poussé l'amour jusqu'à ses dernières limites. Supplions sa bonté de ne pas permettre, de ne pas souffrir qu'on le maltraite à ce point. Et puisque son Saint-Fils nous a fourni un si excellent moyen de l'offrir lui-même sans cesse en sacrifice, demandons qu'une offrande si précieuse arrête les maux affreux dont nous sommes les témoins. Je veux dire ces profanations commises par les malheureux luthériens dans les endroits où repose le très saint sacrement. La destruction des églises, le massacre de tant de prêtres et l'absence de sacrement. Que vois-je, mon Seigneur et mon Dieu? Où fait finir le monde? Où porte remède à de si grands maux? Non, il n'est pas de cœur qui puisse soutenir un pareil spectacle, pas même les nôtres, à nous qui sommes si misérables. Je t'en prie, Dieu éternel, toi-même ne le supporte pas davantage. Arrête cet incendie, Seigneur. Si tu le veux, tu le peux. Considère que ton Fils est encore dans le monde. Par respect pour lui, que tant d'infamies, d'abominations, de souillures prennent fin. Il est indigne de sa beauté, de sa pureté, d'habiter un séjour où se commettent de telles abominations. Fais-le non pour nous, Seigneur, nous ne le méritons pas, mais pour ton Fils. Te supplier de le retirer d'entre nous, nous ne l'osons. Que deviendrions-nous sans lui? Si quelque chose peut apaiser ta colère, c'est de voir ici cet adorable gage. Mais il doit y avoir, ô Seigneur de mon âme, un remède à tant de maux. Daigne l'appliquer, je t'en conjure.
Voilà. Bon, c'est assez dramatique, présenté de manière dramatique par Thérèse. Donc, dans ce contexte des guerres de religion, c'est très clair. Donc, c'est les luthériens, c'est-à-dire plutôt les calvinistes, les huguenots en France. Et c'est tout à fait le contexte des guerres de religion avec les profanations, etc. Bien. Deuxième point, et nous allons retrouver la question que le Père Paul avait posée hier, c'est la communion à Jésus-Eucharistie. La foi nous dit qu'il est bien là. Alors c'est chapitre 34, 3, 6, 9, oui c'est ça. Puis 35, 1, 2. C'est donc le réalisme de la foi eucharistique de Thérèse. La foi nous dit qu'il est bien là. Ce sera au paragraphe 7 du chapitre 34, page 762. 761, 762 et suivantes. Thérèse va professer sa foi en l'Eucharistie, témoigner de sa foi en l'Eucharistie et faire devant nous un acte de foi qui correspond à son action de grâce eucharistique. Alors, va-t-on trouver un lecteur? Tu veux y aller, Yvon? Ah, alors non, ben, vaut mieux parce que sinon ça va être compliqué. 34, 6. 34, 6. Ah, bon, ça y est, c'est bon, c'est parti. Oui.
Croyez-vous que cette
communauté
de saints ne soit pas un soutien pour les corps, une puissance médecine, même pour les maladies corporelles? Je sais quel est tout cela. Je connais une personne affligée de graves maladies dont les vives douleurs étaient souvent ôtées comme avec la main et qui se retrouvait complètement guérie. Cela s'est produit très fréquemment et il s'agissait de maladies manifestes, impossibles à simuler, ce me semble.
Un point intéressant, je connais une personne, quand Saint-Thérèse écrit cela, c'est elle. Je connais une personne qui, parce qu'on lui a dit qu'il ne fallait pas qu'elle parle comme dans le livre de la vie où elle fait sa confession, hein, et que c'est adressé aux intimes. Donc, aussi bien dans le chemin de la perfection que dans le château intérieur, elle dit « Je connais une personne qui ?» Évidemment, personne ne s'y trompe, c'est elle. Hein. Dans le château intérieur, elle dira « Je la connais si bien que je ne fais qu'un avec elle. » Donc, c'est assez clair. Hein. Bien. Alors, donc c'est la vie eucharistique de Thérèse qu'elle nous présente maintenant, sa vie eucharistique personnelle.
Les merveilles qu'accomplit ce pain très saint en ceux qui le reçoivent dignement sont si notoires que je ne dis pas tous ceux dont fut l'objet la personne dont je parle. J'ai été à même de les connaître et je sais qu'elle ne ment pas. Mais le Seigneur m'y avait donné une foi si vive que lorsqu'elle entendait certaines personnes dire qu'elles auraient voulu vivre au temps où le Christ, notre bien, était en ce monde, elle riait toute seule et songeait que puisqu'elle le possédait dans le très saint sacrement, aussi réellement qu'alors, que voulait-elle de mieux ?
Alors, voilà l'autre aspect, l'autre dimension de l'Eucharistie, de même que le Concile de Trente avait rétabli face à la réforme protestante donc le sacrifice eucharistique, hein, la foi dans la dimension sacrificielle de l'Eucharistie. Et de même, le Concile de Trente, et ça a été en premier d'ailleurs, en 1551, donc a réaffirmé la foi de l'Église en la présence réelle et substantielle du Seigneur Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie. Alors, c'est ce qu'elle atteste, c'est ce qu'elle professe ici, c'est donc le réalisme eucharistique, la foi en la présence réelle du Seigneur. Il est vraiment, réellement, substantiellement présent, d'accord ? Avec tout le poids que le Concile de Trente, affirmant la foi de l'Église, hein, le sens commun de la foi de l'Église, hein, le sens des croyants, a professé sur la présence réelle du Seigneur.
Je sais que pendant de longues années, cette personne, pourtant loin d'être parfaite, quand elle communiait, voyez ni mieux ni plus mal qu'elle l'aurait vu avec les yeux corporels, le Seigneur pénétrer dans l'hôtellerie de son âme. Elle tâchait d'aviver sa foi et, croyant vraiment que ce Seigneur entrait dans sa pauvre hôtellerie, elle se libérait autant que possible de toutes choses extérieures et y entrait avec lui. Elle s'efforçait de recueillir ses sens pour qu'ils saisissent tous un si grand bienfait, c'est-à-dire pour qu'il n'empêche pas l'âme de se reconnaître. Elle se considérait...
De le reconnaître, non ? De se reconnaître ?
Oui, j'ai de se reconnaître.
Oui, je vois que ce n'est pas bien traduit, là, non plus. C'est... Oui, donc c'est quoi ? C'est Marie ?
C'est...
Ah, oui, ça y est. Nous la prenons sur le... en défaut. Enfin, je vais vous redire ça, parce que je n'ai pas trouvé que c'était très bien avec le voir. En fait, elle ne voit pas, justement. Je connais, je sais que cette personne... longtemps, de beaucoup d'années, même si elle n'était pas très parfaite, lorsqu'elle communiait, c'était ni plus ni moins que si elle avait vu de ses yeux de chair entrer le Seigneur dans sa demeure, comme si elle avait vu de ses yeux, mais elle ne voyait pas, d'accord, hein? Donc la traduction n'était pas très bonne, hein? Elle s'efforçait, elle cherchait à s'efforcer, elle cherchait à rendre forte sa foi, esforzar la fe. Oui, ça peut aller, ça peut aller. Hein. Mais c'est ça le verbe, il y a pas. C'est comme si elle voyait, mais elle voyait pas. Hein, d'accord, on est bien d'accord. C'est donc un mystère de foi qui est perçu dans la foi. C'est ça que je veux souligner là. On est d'accord, hein? Donc vous voyez, on assiste là. C'est tout à fait intéressant par rapport aux questions qu'on se posait hier, à cette sorte d'alternative ou d'opposition qu'on pouvait voir. Elle pratique le recueillement avec Jésus Eucharistie. Eh oui. Donc pour elle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'alternative. Elle vit le recueillement, vous voyez, elle fait en sorte de recueillir ses sens pour qu'ils comprennent un si grand bien et qu'ils ne gênent pas, ne la gênent pas pour le reconnaître, le connaître, le reconnaître. Donc il y a tout un travail d'intériorisation, de recueillement qu'elle fait en accueillant le pain eucharistique dans sa demeure. Oui ?
Quelle est la pratique de Thérèse par rapport à l'Eucharistie ? Est-ce que c'est quotidien ? Est-ce que c'est quoi au XVIe siècle en Espagne ?
Est-ce que tu veux bien qu'on attende 2 minutes ? À la fin de ce texte, on va pouvoir voir quelque chose. Et donc, je veux laisser cela en suspens. Ça peut aller ? Hein ? Bon. Pour l'instant, on souligne cet aspect de cette idée donc du recueillement accompagnant la communion eucharistique, l'action de grâce, d'accord ? Donc vous voyez que c'est tout à fait compatible. Hein, il n'y a pas lieu de chercher une alternative là. Hein? Bon.
Elle se considérait à ses pieds et pleurait avec Madeleine, ni plus ni moins que si elle l'avait vu de ses yeux corporels dans la maison du pharisien.
Bon, c'est Marie chez le pharisien, donc jusque il y a fort peu de temps, hein, on disait que c'était Marie-Madeleine. Hein? Bon.
Et même si elle n'éprouvait pas de ferveur, la foi lui disait qu'il était bien là.
Alors, voilà la phrase qu'il faudrait absolument retenir. La foi lui disait qu'il était bien là. Le curé d'Ars, il est là. Dans le sacrement de son amour, il est là. D'accord ? Présence réelle. Et donc, aussi réel qu'il était en Palestine. Hein. Évidemment, il faudrait mettre la nuance. Elle n'a pas besoin de le faire parce qu'elle affronte une objection de gens qui disent qu'ils auraient préféré le connaître en Palestine, marchant en Palestine. Donc elle affirme le réalisme eucharistique. Hein. Évidemment, il ne faudrait pas, j'allais dire, tomber dans l'hyper-réalisme qui a été écarté par l'Église de certains théologiens du Moyen-Âge, comme Pascaz, Radebert, etc. Hein. Donc c'est une présence réelle, mais sacramentelle, c'est une présence substantielle. Que ça veut dire substantielle ? On fait ce qu'on peut pour comprendre ce que ça veut dire. D'accord ? Hein ? Par mode de substance, dit saint Thomas d'Aquin. D'accord ? Parce qu'il s'agit du Seigneur glorieux, qui peut se rendre présent en tout lieu, en tout temps. Vous voyez ça ? Donc par mode de substance, dit saint Thomas. C'est une présence réelle, mais sacramentelle, ça la diminue pas, et mais substantielle, par mode de substance.
Et qu'est-ce qu'ils disaient ces théologiens ?
Eh bien, ils avaient un réalisme tel que si on touchait ou si on mangeait ou tout ça, voilà, je ne veux pas dire que ça tombait dans le cannibalisme, mais enfin, bon, voilà. Hein. Donc c'est ce risque de l'hyper-réalisme. Hein. Donc, vous voyez, ce n'est pas si simple par mode de substance. Je trouve qu'on est complètement asphyxié. Non, il n'y a pas moyen d'ouvrir. Ou vous voulez vraiment laisser les qu'on reste dans ce bocal comme ça. Je trouve ça. Alors, on va avancer maintenant. Donc, c'est une présence réelle, substantielle, qui dure avec les accidents du pain et du vin. Je voudrais mieux dire les espèces plutôt que les accidents. Hein? C'est un mystère de foi et d'intériorisation. Ah bah dites donc. Ah, bien, merci. Alors, ce qu'elle va nous faire comprendre, c'est que peut-être que dans les exercices spirituels de Saint Ignace, on imagine, on a besoin d'imaginer. Peut-être que pour une certaine forme de recueillement, on a besoin d'imaginer, même si elle, c'était surtout de regarder. Et de concentrer son regard. Alors là, ça sert à rien. C'est le paragraphe qui suit. La foi lui disait qu'il est bien là. Alors, paragraphe 8.
Car si nous ne voulons pas faire les sourds et aveugler notre entendement, on ne peut douter qu'il ne s'agit pas d'une représentation de l'imagination.
Non, on ne peut pas douter, point virgule. Cela n'est pas une représentation de l'imagination. D'accord ? Comme
considérons le Seigneur sur la croix ou à d'autres moments de la Passion et que nous évoquons en nous-mêmes ce qui s'est passé.
Alors que nous le représentons, hein, c'est ce qu'elle avait dit pour le recueillement, donc là c'est pas bien traduit non plus. Hein. Marcel Auclair.
Dans ce cas-ci, cela se passe ici même. C'est absolument vrai, et nous n'avons pas à aller le chercher ailleurs, au loin. Mais nous savons que tant que la chaleur du corps n'a pas consumé les accidents du pain, le bon Jésus reste avec nous, afin que nous nous rapprochions de lui.
Bien, vous voyez, là, sa théologie assez bonne, hein, de l'Eucharistie, hein. C'est une présence réelle qui dure autant que durent les accidents du pain et du vin, hein, bien sûr. Ça, c'est la foi eucharistique de l'Église. Hein.
Puisque quand il vivait dans ce monde, il suffisait que les malades touchent ses habits pour être guéris, comment douter, lorsqu'il est en moi, qu'il fasse des miracles si nous avons la foi et qu'il nous donne ce que nous lui demandons puisqu'il habite notre maison ? Sa Majesté ne paye pas chichement notre hospitalité si nous lui offrons bon gîte.
Oh, d'accord. D'accord, oui. Bien. Donc, réponse du Seigneur, efficacité de la foi, vous voyez, hein, ce réalisme de la foi thérésienne dans la présence eucharistique. On va lire le 9 encore.
Si vous êtes peiné de ne pas le voir de vos yeux corporels, considérez que cela ne nous convient pas. Le voir glorifié, c'est autre chose que de le voir comme il était en ce monde. Notre faiblesse naturelle ne pourrait le supporter. Le monde n'existerait plus. Personne ne pourrait y vivre. Car en face de cette vérité éternelle, nous verrions que toutes les choses dont nous faisons cas ici-bas sont mensonges et moqueries. Devant une si grande majesté, comment une pauvre petite pécheresse comme moi, qui l'est tant offensée, oserait-elle se tenir tout près de lui ? Sous les apparences de ce pain, il est accessible. Car quand le roi se masque, nous ne craignons point de lui parler avec moins d'égard et de manifestation de respect. Il est obligé de l'admettre, puisqu'il s'est masqué.
Masqué, oui. Déguisé, hein ? Oui. Disfrazo, oui.
Sinon, qui oserait se présenter à lui si indignement, avec tant de tiédeur, tant d'imperfection ?
Voilà, un autre aspect, donc une autre dimension, même double, hein, du mystère eucharistique. Nous avions Jésus serviteur dans l'Eucharistie, présence sacrificielle, maintenant vu sous l'angle de la présence réelle, hein, autant que sur la terre. C'est la présence du ressuscité. Hein. C'est la présence du Christ ressuscité et glorieux. Ben ça, c'est tout le mystère qui est contenu dans le mot transsubstantiation. C'est ce que sauve le mot transsubstantiation. Elle ne l'emploie pas ici, hein, Thérèse. Mais c'est pour ça que l'Église maintient ce terme. Hein. Et donc, l'Eucharistie le rend accessible. Elle dit tratable, traitable. On peut s'approcher de lui. C'est un sacrement d'humilité. C'est le sacrement d'humilité du Christ glorieux. Ressuscité, vivant et glorieux. Car le Christ ne meurt plus, dit saint Paul. Vous voyez ça? Donc, vous voyez qu'on touche à un certain nombre de dimensions du mystère eucharistique assez fascinantes, hein, assez impressionnantes, hein, qu'il faut toutes tenir ensemble. Alors, c'est pas très facile, hein. Donc, c'est à la fois le serviteur, c'est l'offrande sacrificielle, et c'est le Christ glorieux, vivant, ressuscité, et qui se rend accessible dans cette humilité, hein. En même temps, c'est une humilité, j'allais dire, relative, puisque par l'Eucharistie, le Seigneur glorieux, vivant, ressuscité, se rend présent partout et toujours, à travers tous les siècles, toutes les cultures et en tout lieu. Donc c'est aussi très glorieux. Hein. Donc c'est une majesté, comme elle dit, hein, un éclat, une vérité, mais en même temps humble, puis en même temps glorieuse. Vous voyez, c'est toutes les antinomies du mystère, hein, eucharistique. Ouais. C'est impressionnant, ça, quand même, hein. Elle a perçu cela. Alors un dernier point, le paragraphe 10. Donc cette présence du Christ glorieux dans sa majesté qui nous anéantirait, parce que nous ne serions pas capables de supporter cette lumière de vérité, cet éclat, hein, donc qui se rend accessible. Dans l'Eucharistie, c'est une présence voilée. C'est vrai, voilée. L'Eucharistie, d'une certaine façon, est un voile qui à la fois cache et révèle, c'est ça. Hein, c'est pareil, bien sûr. C'est un petit peu paradoxal, antinomique. Si cette majesté n'était pas voilée, elle serait insoutenable. Il se rend donc d'un accès facile. Il a voilé lui-même sa sainteté, sa majesté. Et cependant, vous allez voir, c'est assez intéressant, et là, c'est la contemplative qui parle. Donc, paragraphe 10. Allez.
Nous ne savons pas ce que nous demandons, mais comme sa sagesse y pourvoit mieux, il se découvre à ceux qu'il sait capable de profiter de sa présence. Sans qu'ils le voient de leurs yeux corporels, il a bien des façons de se manifester aux âmes par de grands sentiments intérieurs et diverses voies. Restez avec lui de bon cœur. Ne perdez pas la bonne occasion de négocier quelle heure qui suit la communion.
De négocier quoi ?
De négocier quelle heure, Q-U-E-S-T, en fait, quelle heure qui suit la communion, c'est pas très...
Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, cette phrase, en français.
En fait, c'est une heure d'action de grâce après la communion, c'est ça ? C'est ça que
l'on ben oui, ne perdez pas une si bonne raison de négocier, de traiter avec lui, de faire des affaires. Hein. Thérèse, en affaires. Donc le Seigneur est là, on négocie. On obtient, on troque, enfin voilà, hein, on obtient, etc. Donc, ne perdez pas un si bon motif. À ce si bon motif, cette si bonne raison, c'est ça qu'elle a voulu dire, je pense, qu'est cette heure après avoir communié, l'heure qui suit la communion. Voilà. Donc on peut penser qu'elle faisait des actions de grâce assez prolongées. Hein? Bon.
Si l'obéissance, mes sœurs, vous commandait autre chose, tâchez de laisser votre âme avec le Seigneur, car si votre pensée se porte immédiatement ailleurs, sans faire cas de lui, sans considérer qu'il est en vous, comment se révélerait-il à vous ? C'est le bon moment pour que notre maître nous donne ses leçons, pour que nous l'écoutions, pour que nous lui baisions les pieds en reconnaissance de son enseignement. Et suppliez-le, mes sœurs, de ne pas s'éloigner de vous.
Bien. Donc, vous voyez, on continue ce mouvement d'intériorité, ce mouvement d'écoute. Le réalisme, vous êtes à ses pieds, nous baisons ses pieds, donc il y a quelque chose, chez Thérèse c'est toujours très, très incarné, très charnel, hein, nous lui baisons les pieds, hein. Il enseigne, il instruit, mais vous voyez cet aspect d'une manifestation mystérieuse du Seigneur à l'âme, il se découvre, il y a l'expérience et l'attention à une présence. Maintenant il ne s'agit plus de chercher à le regarder, de regarder une image, elle va dire, hein. Donc, c'est clair que pour Thérèse, l'Eucharistie, la communion eucharistique, c'est la présence par excellence, hein, du Seigneur à ceux qui le désirent, à ceux qui ont faim, hein, à ceux-là, il donne ses trésors, elle va dire ça par la suite. Hein. Mais c'est la présence par excellence. Évidemment, c'est une présence qui se découvre, il se manifeste à ceux qui font attention. C'est toujours la question de l'attention. Et donc, le regard contemplatif, là, entre en jeu. Vous voyez ça ? Eh oui, ça va avec. Ça se marie, ça s'allie. Hein ? Vous voyez ça ? Contemplation et action de grâce eucharistique, ça va ensemble. Il n'y a pas de disjonction, il n'y a pas d'alternative. Est-ce que vous saisissez cela ? Vous comprenez cela ? Hein ? Elle arrive à unir ces dimensions-là. Hein. Je voudrais qu'on lise le 12 encore. Ouais. Justement, on va voir la réponse, tant attendue.
Mais lorsque vous venez de recevoir le Seigneur, puisque vous avez devant vous la personne elle-même, tâchez de fermer les yeux du corps, d'ouvrir ceux de l'âme et regardez dans votre cœur.
Oui, elle vient de dire avant que, ben, il est là, donc c'est pas la peine de chercher des images, des icônes, il est là, réellement, hein, donc on n'a pas besoin de chercher autre chose. C'est le paragraphe d'avant. Hein. Bon.
Je vous le dis, je vous le redis, et je voudrais le répéter plus encore. Si vous prenez cette habitude chaque fois que vous communirez, et tâchez que votre conscience soit digne de jouir souvent de ce don.
Ah, voilà.
Vous constaterez que quoi qu'il soit masqué, cela ne l'empêche pas, comme je l'ai dit, de se manifester à nous de bien des façons, dans la mesure où nous désirons le voir. Et vous pouvez tant le désirer qu'il se manifestera pleinement.
Bien, donc masqué, oui, bon, voilé, je préférais voilé, parce que masqué, ça fait mal masqué, bon, c'est pas terrible, quoi. Bien. Donc voilé, ce serait mieux, hein, ce serait même mieux que déguisé, d'accord? Bien, alors, et tâchez d'avoir la conscience dans un tel état, dans un état tel, qu'il vous soit permis de jouir souvent de ce bien. Alors, évidemment, nous touchons, nous répondons à la question. Donc, c'est pas une communion pour la forme, c'est clair, hein, c'est pas une communion, mécanique, hein. De routine, c'est très clair pour Thérèse. Bon, c'est une communion qui correspond à une fin eucharistique, ça c'est très clair aussi. Hein. Mais évidemment, elle touche là la question de la communion fréquente. Tâchez de faire en sorte que votre conscience soit dans un état tel qu'il vous soit permis de jouir souvent de ce bien, avec une majuscule. Hein. Donc Thérèse, ici, de manière claire, nette, invite à la communion fréquente, à une époque où elle se faisait rarement, même dans les monastères. Il faut dire que la communion dépendait de l'autorisation des confesseurs. Elle était donc liée, ça a duré longtemps hein, dans l'Église catholique, hein, on le retrouve encore chez Thérèse de Lisieux. Hein. Donc, cela dépendait de l'autorisation des confesseurs. Les habitudes étaient d'une communion rare, c'est clair, hein, même dans les monastères. Alors Thérèse, qui communiait chaque jour, habituellement, et je vous ai expliqué de quelle manière, elle mettait toujours une autre sœur avant elle, pour que cette sœur la couvre de ses vertus, et aussi pour que ça apparaisse de manière moins spectaculaire qu'elle communiait tous les jours, parce que c'était quand même pas ordinaire, hein. Donc elle communiait tous les jours, et pour aider ses sœurs à communier davantage, et pour contourner, l'avarice des confesseurs, hein, alors elle a multiplié dans les constitutions les jours de fête et de communion. C'est très bien pensé comme truc, très très bien pensé. Et une multiplication de jours de fête, et ces jours-là, on fera la communion. Donc vous verrez, c'est assez rigolo de voir cela. Hein? Voilà, bon. Mais elle vivait de la communion quotidienne, c'était inhabituel, on voulait la freiner même. Hein? Il est clair, si vous voulez voir un petit peu l'action de grâce thérésienne à l'Eucharistie, il suffit que vous preniez dans les œuvres complètes les exclamations. Les exclamations de l'âme à Dieu, il y a toute une série. Ce sont des prières d'action de grâce, dans l'action de grâce, j'allais dire dans la foulée de l'Eucharistie. Voilà le sens de ces exclamations de l'âme à Dieu. Donc voilà les éléments que nous pouvons recueillir au sujet de l'Eucharistie. Chez Thérèse, vous voyez qu'elle illustre bien, elle atteste bien ce que l'Église a ressaisi, resitué, réaffirmé au Concile de Trente sur l'Eucharistie, présence réelle et aussi présence sacrificielle du Seigneur. Mais elle a ajouté, ou elle l'a relu, elle l'a attesté, professé aussi dans cette dimension contemplative d'intériorité. Et je crois que ça c'est très riche. Et qu'au niveau de la pédagogie, de la pastorale, ça peut être très, très bon, très riche, très intéressant. Vous voyez ça? Hein? Voilà. Oui.
C'est simple, si on qui sont vraiment vrais, hein, vient d'abord de sa contemplation ou par le magistère, par les doctrines de Trent.
Quelles intuitions
sur le sacrement présentiel.
Ah! Bon ben, elle ne met pas de guillemets dans ses textes, elle ne met pas de citation ni de référence, mais il est clair que, enfin comment dire, je crois qu'il n'y a pas d'alternative là non plus, c'est pas ou, c'est et. C'est à la fois par la prédication qu'elle entend, la catéchèse qu'elle a reçue, la formation qu'elle a reçue, qui est certainement beaucoup plus précise, plus rigoureuse qu'à notre époque, à ce sujet-là, parce que la prédication est très précise, hein, c'est sûr. Et donc, les décrets de Trente ont été promulgués en Espagne aussi très rapidement, hein, et donc transmis, ça c'est clair. Hein. J'allais dire, c'est la foi eucharistique du peuple de Dieu qui a été affirmée par l'Église, par le magistère. Donc, il y a un va-et-vient entre sa contemplation, ses intuitions, sa prière, et puis ce que l'Église enseigne. Je crois qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition, il n'y a même pas d'alternative. C'est un va-et-vient, voyez ? C'est une réciprocité. Et je crois qu'elle confirme aussi ce qu'affirme bien le Père Marie-Eugène dans « Je veux voir Dieu », que quand on est contemplatif véritablement du mystère du Christ, on a besoin de la lumière du dogme, de la foi de l'Église, pour explorer le mystère, d'accord ? Et que quand on explore le mystère, les contemplatifs qui explorent le mystère, les mystiques, ils ont aussi des vues sur le mystère qui font avancer le dogme. C'est l'un et l'autre, vous voyez ? C'est pas du tout en opposition, au contraire. Ça va ? Hein ? Père Paul, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure, là ? Non, c'est bon ? D'accord. Donc voilà ce que je pourrais dire là-dessus chez Sainte Thérèse. J'allais dire, c'est vrai que chez elle, on a un catholicisme, j'allais dire, dans toute sa splendeur, quoi. Vraiment, tout y est, il n'y a pas de... Hein? Ce qui serait peut-être plus faible chez elle, ce serait la pneumatologie explicite. Elle y est implicite, mais explicite, il y a peu d'affirmations. C'est très typique aussi du XVIe siècle et du XVIIe siècle, hein? La pneumatologie, à l'exception de Jean de la Croix, qui constitue vraiment une exception, elle est faible dans l'Église latine. Donc c'est le grand inconnu. Hein? On avait vu ça l'an dernier, vous vous souvenez? Donc chez Sainte Thérèse, la pneumatologie explicite, pas sa vie, pas son expérience, hein, mais il y a très peu d'expression, ça c'est clair. C'est la christologie qui est très très forte, très très forte. Voilà. Bon, alors j'aimerais bien qu'on avance maintenant dans le pardon des offenses. Est-ce que c'est possible qu'on fasse la pause après, parce qu'on a commencé un petit peu plus tard? J'aimerais bien finir ce bloc. Est-ce que je peux compter sur votre approbation? Il est des étudiants qui ne veulent pas se compromettre, s'engager sur cette voie. Mais je vous demande seulement 10 minutes, donc finalement un quart d'heure maximum, donc ça va. Alors, nous allons donc aborder maintenant le dernier point, qui est le pardon des offenses. Et donc le troisième volet de notre triptyque, et vous percevez donc la richesse de cet enseignement du chemin de la perfection qui nous fait toucher une dimension excessivement importante de la vie chrétienne, de l'Évangile, et qui est donc le pardon des offenses, la réconciliation avec les frères. La spontanéité pour le pardon, voilà le mot clé de l'enseignement donné par Thérèse. Elle s'est donc engagée au chapitre 36 et 37 dans le commentaire de la sixième demande du Pater: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tout de suite, elle note que pour notre part, le verbe « nous pardonnons » est non pas au futur, mais au présent. C'est pas nous pardonnerons. C'est nous pardonnons. Ça veut dire que c'est le présent. Ça veut dire que c'est aujourd'hui. Ça veut dire que le pardon doit être une réalité. Et que si nous, c'est parce que nous pardonnons, c'est, oui, en vertu du pardon que nous donnons, que nous pouvons obtenir le pardon de Dieu. C'est ça qu'elle va faire comprendre. Le pardon doit être une réalité ici et maintenant, aujourd'hui, dans le présent. Il attire et conditionne même le pardon de Dieu. Elle dit ceci, 36,7. J'ai l'impression de donner des températures avec un thermomètre. 36,7, c'est la page 773. Le bon Jésus aurait pu dire, en effet, « Pardonnez-nous, Seigneur, parce que nous faisons beaucoup pénitence, ou parce que nous prions beaucoup. Nous faisons 2 heures d'oraison par jour, nous faisons 1 heure d'oraison par jour au studium. » C'est un peu vache, hein? Bon. Nous, parce que nous jeûnons le vendredi et parce que nous avons tout quitté pour vous, pour le sacerdoce, pour la consécration, parce que nous vous aimons beaucoup, nous le croyons en tout cas. Bon. Il ne dit pas parce que nous donnerions notre vie pour vous. Vous vous rappelez Pierre, je donnerai ma vie pour toi au seuil de la passion, c'est ça qui est derrière, et d'autres choses encore, mais parce que nous pardonnons. Parce que nous pardonnons. Pardonne-nous parce que nous pardonnons. Ah, c'est un peu la logique. Bon. Et elle donne une première explication qui est un peu la clé de l'ensemble. C'est toujours 36,7, 774. Maintenant. Elle se demande pourquoi. Pourquoi il a dit ça? C'est peut-être. Bon, c'est une hypothèse. Dans sa tête, c'est un peu sûr. Mais enfin, bon. C'est peut-être. Parce qu'il nous s'est tellement amis, attachés, de ce noir honneur, l'honneur, la negra honra, le point d'honneur, le souci de l'estime, c'est ça que ça veut dire, de la réputation, et que cette chose est plus difficile à obtenir de nous et plus agréable à son Père, qu'il l'a dit et l'offre de notre part. Car le Seigneur parle en notre nom dans notre Père. Il est avec nous, au milieu de nous, il intercède pour nous, il parle en notre nom. Et donc, comme nous pardonnons, il a dit ça au Père. Donc c'est promis. Vous voyez la logique de Thérèse? Alors, ça ne devient pas très facile tout ça. Alors, la question de l'honneur, elle est déjà apparue dans les chapitres sur le détachement, vous vous souvenez? Cette hypersensibilité du « moi ». Le souci des préséances, d'être connu, estimé, de ne pas pouvoir se donner à certains travaux, certaines tâches qui paraissent inférieures. Vous rappelez tout ça? On avait vu tout ça. Hein? Bon, donc il y a cette question de l'honneur, qui est évidemment très forte pour Thérèse dans le contexte culturel, social et religieux qui est le sien. Hein? L'honneur, c'est, j'allais dire, le point d'honneur, c'est la culture espagnole du XVIe siècle en est complètement infestée. À Rome, on disait que les Espagnols étaient complètement obsédés par cette question de l'honneur. Donc c'était connu, mondialement connu. Bon, les Espagnols à l'époque, c'est l'Empire. C'est les Américains du siècle passé, quoi. D'accord, c'est ça la comparaison. Oui, c'est ça. Donc voilà. Alors les gens savaient observer les Espagnols. Donc ils étaient connus pour cette obsession de l'honneur, du point d'honneur, donc l'orgueil de la race, la pureté du sang, il y a tout ça là-dedans, il y a plein de trucs là-dedans, être vieux chrétien, descendre de vieux chrétiens, pas avoir le sang mélangé avec du sang juif ou du sang musulman, enfin il y a cette question-là, mais il y a aussi tout l'honneur social, la position sociale, dans la société, dans la politique, dans la vie économique, il y a tout ça. Et puis, pour Thérèse, encore plus fondamentalement, il y a notre moi, notre ego. Voilà. Ça va? Donc, de ce point de vue-là, cette dimension-là, elle est pérenne, elle est actuelle. Quoi. D'accord? Hein? Les autres dimensions, c'est la culture de l'époque. Hein? Alors, elle, évidemment, il faut savoir que, à cause de cette chose un peu embrouillée de sa famille, donc son grand-père, donc d'ascendance juive, les fils donc son père et ses oncles, quand ils sont arrivés à Avila et quand ils ont fui Tolède parce que le grand-père avait été repéré comme judaïsant, c'est-à-dire qu'il s'était apparemment en façade converti, mais il continuait à pratiquer la foi juive, on appelait ça les judaïsants. Donc il a été découvert et on l'a puni publiquement, il a dû faire des processions publiques de pénitence et porter ce qu'on appelle le San Benito. Donc c'est une espèce de truc qu'on avait, et puis un vêtement qui nous montrait au public. Alors c'est évident qu'après son commerce s'est effondré, plus personne n'allait acheter de draps chez lui, il avait un commerce de tissus. Donc c'est pour ça qu'il a quitté Tolède et qu'il est venu à Avila s'établir et fonder un commerce. Donc je vous avais dit que ses fils à lui, donc les oncles de Thérèse et son père, se sont donc insérés dans la société d'Avila notamment, par des mariages avec des filles de la noblesse, pour pouvoir se glisser dans cette société et ne plus être connus de manière infamante comme leur père. Vous voyez, c'est toute cette question-là. Et alors, aussi pour que ce soit vraiment pour se blanchir, si vous voulez, complètement, pour être totalement au clair et reconnu et estimé, alors ils ont fait un procès. Et à la chancellerie de Valladolid, donc ils ont fait un recours pour être reconnus avec un titre de noblesse. Et pour ce faire, ils ont fait un faux. Ça n'a pas été tout à fait honnête, quoi. On sait que dans le titre, ils ont été reconnus seigneurs de tel village et tel village. C'était marqué où, et eux, ils ont mis « et » pour étendre leur seigneurie, avoir plus de liberté et surtout payer moins d'impôts, parce que quand on était seigneur et de la noblesse, on ne payait pas d'impôts, c'était le peuple qui payait des impôts, donc pour ne pas payer d'impôts. Et aussi, et ça a beaucoup servi aux frères de Thérèse, ils ont pu partir en Amérique. Ce n'était pas possible de partir en Amérique si on n'avait pas attesté de la pureté du sang de sa noblesse. Donc c'était très compliqué, vous voyez. Alors, ce procès à la chancellerie de Valladolid, c'est toute l'enfance de Thérèse. Et donc... on sent que chez elle, il y a une espèce de répugnance pour toutes ces questions d'honneur, de niveau social, de toutes ces histoires-là. On sent qu'elle est vraiment... Parce qu'évidemment, toute l'enfance, elle a entendu parler de ça. Et voilà. Donc elle en est profondément agacée. Et ça rejaillit toujours. Elle ne perd pas une occasion pour dire que ce sont des choses qui sont sans importance, qui sont à négliger... etc., etc. C'est très très frappant, j'allais dire, l'insistance de Thérèse sur ce point-là, mais forcément à cause de l'expérience familiale. Voilà. Donc le noir honneur, quand elle dit le noir honneur, vous voyez, elle est férocement critique contre la société de son temps. À ce niveau-là, c'est très très féroce chez elle, très très féroce. Alors cette question de désascendance de Thérèse et d'ascendance juive, ça a été caché même dans le Carmel pendant des siècles. C'est une bombe qui a éclaté dans le Carmel espagnol en 1948, quand il y a eu une recherche qui a été faite. On disait toujours que elle venait d'un milieu, etc. Parce que vraiment, c'était considéré comme l'opprobre. C'est marrant, hein. Mais ça a éclaté comme une bombe. Il y a un historien qui a fait une étude très précise et puis qui a sorti tous les textes, qui a étudié le procès, tout ça. Donc vraiment, voilà. Et c'est, le Carmel espagnol a mis du temps, même les plus grands spécialistes ont mis du temps à digérer cette nouvelle, quoi. C'était vraiment... Bon, heureusement, il y a eu le concile, donc ça va, Nostra Aetate, tout ça, donc ouf, ça allait, mais c'était quand même très très difficile à digérer comme nouvelle, quoi. Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette question de l'honneur comme dignité personnelle. La valeur qu'on se donne, quelle que soit la pureté du sang, les questions de société, etc., c'est très second pour nous, et c'est la question de la valeur que nous nous donnons et que nous, la respectabilité que nous voulons faire, que nous voulons imposer, cette hypersensibilité du moi. Voilà. Donc Thérèse dit en effet que nous avons toujours tendance à nous élever, donc elle savait bien ça parce que sa famille c'était pour s'élever. Comme nous sommes portés à nous élever, mais ce n'est pas comme cela que nous montrons au ciel, il n'est pas question de descendre, elle dit. C'est 36.5, page 772-773. Alors elle oppose l'exemple du maître. Où avez-vous mis, Seigneur, votre honneur, vous qui nous avez conféré l'honneur? L'honneur pour Thérèse, c'est la dignité des enfants de Dieu. À la fin de sa vie, le père Gratien, le provincial des Carmes, lui disait: oh madre, vous venez d'une famille, etc., d'un village, etc., etc.
Et elle répondait, je suis fille de l'Église. Voilà. Coupez court à tout ce type de discours. Donc, ne l'avez-vous pas, vous qui nous avez conféré l'honneur, la dignité des enfants de Dieu, ne l'avez-vous pas perdu en vous humiliant jusqu'à la mort? Non, Seigneur, mais bien plutôt, vous l'avez gagné pour tous. Donc, c'est l'honneur des fils de Dieu, obtenu dans la rédemption. Donc, quel abîme entre le véritable honneur, celui des enfants de Dieu, rachetés par le sang précieux du Christ, et ces noirs points d'honneur. Noirs. Estos negros puntos de honra. C'est vraiment le rejet chez elle. 36.6. Ça va? Bon. Alors, voilà un point qui est posé. Donc, cette question de l'honneur, de la dignité personnelle, de nos sentiments d'honneur, et ainsi de suite. Bon. Voilà. Alors, la deuxième chose... Le deuxième pas qu'elle fait, c'est la question des injures et des offenses. Alors là, elle va y aller un peu fort. Le censeur sera tout à fait mécontent. Il va raturer tout ça. Donc, nous disons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais elle va dire la première chose, de quelles offenses s'agit-il? Pas de ces petits trucs que nous considérons comme des offenses, qui ne sont vraiment, des broutilles, nous appelons ça des offenses, des injures, mais réellement, qu'est-ce que c'est? Faites-nous comprendre, Seigneur, que nous ne nous comprenons pas, et que nous venons à vie les mains vides, et pardonnez-nous en vertu de votre miséricorde. Nous estimons que nous pardonnons des offenses, mais ce n'est pas des vraies offenses. Nous croyons offensés quand les autres, soi-disant, nous offensent, mais en réalité, ce n'est pas des offenses, c'est vraiment des riens. C'est ça qu'elle dit. Ça va être la pointe de son raisonnement. Alors là, le censeur, il n'est pas du tout d'accord. Il lui dit... Enfin, elle relativise beaucoup les offenses que nous recevons. Et les censeurs ne sont pas du tout d'accord. Dans l'autographe de l'Escorial, il y a une grande croix comme ça. Je voulais apporter le texte. Vous allez voir, c'est... Tout ça, ça ne va pas. Ça, oui, c'est tout comme ça. Il a rayé une page entière. Il a fait raconter là-dessus. C'est nul et non avenu, puis il a mis en marche sa petite notation que je vais vous lire. Et voilà. Donc, c'est... Ça lui a pas du tout plu. Pourquoi? Dit-elle que les offenses, c'est rien du tout. Thérèse reçut une part d'injure pour elle, qui avait mérité l'enfer par ses péchés et qui recevait en toute justice les mauvais traitements des hommes. C'est ça sa logique. Pas toujours notre logique, ça c'est sûr. Bon, la logique des saints. Elle trouvait que les mauvais traitements des hommes étaient même insuffisants et qu'au fond, elle n'avait rien à pardonner et qu'elle devait demander au Seigneur la remise gratuite de ses dettes puisque comme elle n'a rien à pardonner, il faut que le Seigneur lui pardonne en toute gratuité. Vous voyez, vous comprenez sa logique? Les offenses qu'elle reçoit ne sont pas de réelles offenses. Ce ne sont pas de réelles offenses. Et de toute façon, elle mérite plus. Elle mérite l'enfer pour ses péchés. Donc ce que les hommes lui infligent comme offense, c'est rien du tout, comparé à ce qu'elle devrait mériter. Et donc, elle va vers le Seigneur, elle ne peut pas dire, nous pardonnons, j'ai rien à pardonner en fait, j'ai pas d'offense à pardonner. Ce n'est pas des vraies offenses. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Donc elle relativise complètement les offenses qui lui sont faites. Alors, le censeur a mis en marge du texte rayé, ce sont de véritables offenses et injures que l'on nous fait, bien que nous soyons plus grands pécheurs encore. Mais il faut les pardonner pour que le Seigneur nous pardonne. C'est pas mal, C'est pas mal, ce qu'il dit. Ce sont de véritables offenses et injures qu'on nous fait, bien que nous soyons plus grands pécheurs encore. Mais il faut les pardonner pour que le Seigneur nous pardonne. Lui, il essaie de tout tenir, et c'est la parole du Seigneur qu'il essaie de tenir. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Bon. Alors, dans la rédaction de Valladolid, elle supprime le passage. Très bien. Mais elle avait encore des petites choses, des petites réflexions dans ce sens-là, qui restaient. Alors, dans le manuscrit de Valladolid, le censeur voit qu'il reste encore des choses, alors il raye encore. Et vous voyez, c'est tout ça. C'est quand même pas mal, C'est rayé au point, comme je vous avais dit, qu'on ne puisse pas le lire. On ne puisse pas le déchiffrer. Donc c'est quand même assez amusant de voir comment pour le censeur, alors là, le commentaire thérésien, ça ne va pas du tout. Pas du tout.
Donc il raye encore ce qui précédait, ce qu'il avait rayé avant. Pourquoi ? Parce que Thérèse disait qu'il n'y avait vraiment pas de proportion, et c'est, je pense, le terme qui nous éclaire. Il y a une disproportion entre une chose aussi petite, aussi minime pour nous que de pardonner aux autres leurs offenses, et puis cette chose si grave et si importante de voir nos fautes dignes de l'enfer pardonnées par le Seigneur. Il n'y a vraiment pas de proportion entre le pardon que nous nous donnons aux autres pour des choses qui sont minimes et puis ce pardon que le Seigneur fait descendre sur nos fautes dignes de l'enfer. Il y a une disproportion totale. C'est très intéressant de voir ça. Hein, ça a une grande pénétration du mystère. Hein. Vous voyez, le censeur, lui, il n'entre pas là-dedans. Hein, il n'a pas cette... pénétration, hein. Il a raison de censurer, mais en même temps, il n'a pas cette pénétration. Donc, elle disait que finalement, elle n'avait pas de véritable offense à pardonner, que le Seigneur devrait lui pardonner gratuitement. Alors, tout ce passage-là est rayé avec la même minutie par le censeur. Hein. Malgré toutes ces corrections du censeur, ces rayures, on voit bien que la sainte reste... Elle accepte, elle ne va pas remettre ça. Hein, mais on voit bien, par la suite, elle reste convaincue de ne recevoir aucune injure ou offense qui mérite ce nom et de s'offrir toujours les mains vides au pardon du Seigneur. Ça lui reste. Conviction des saints. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est aussi leur niveau de pénétration du mystère. Hein, c'est autre chose, hein, de profondeur. Elle va plus loin, hein, me semble-t-il, et vous allez voir pourquoi. Donc, elle accepte, elle n'a pas remis ce qu'il a censuré, donc tout ça, c'est parti, très bien. Hein. Mais, après, elle dit qu'en effet, si on est vraiment contemplatif, si on entre vraiment dans la miséricorde de Dieu par la contemplation, alors se fait en nous une nouvelle maturité spirituelle. Qui est faite d'oubli de soi, de dépassement des offenses et de spontanéité habituelle pour le pardon. On va réagir par le pardon. Alors elle dit cela, c'est 36.8, page 774. Une âme à qui, dans l'oraison, Dieu fait la grâce de la parfaite contemplation et qui n'en sortirait pas tout à fait déterminée à pardonner n'importe quelle offense, aussi grave qu'elle soit, pas des bagatelles qu'on appelle des injures, et l'occasion venue de le prouver par des actes, n'a pas lieu de se fier beaucoup à son oraison. D'accord ? Vous voyez, donc elle dépasse un petit peu la question avec le censeur, le débat avec le censeur, des offenses, pas des offenses, et tout ça. De toute façon, si on s'approche de Dieu, si on plonge dans la miséricorde de Dieu, quand on en ressort, il faut qu'on ait la spontanéité pour le pardon, sinon c'est qu'on ne s'y est pas plongé. Vous voyez ? Donc, elle dépasse le problème, vous voyez, c'est ça, ça c'est les saints, hein, ça c'est les mystiques. Et elle ajoute, car une âme que Dieu approche, rapproche de soi, c'est donc Dieu qui fait, dans une oraison si élevée, et elle dit, elle va plus loin encore, n'est pas atteinte par les injures, par les offenses, elle n'est pas atteinte, ça ne l'atteint pas, elle n'est pas touchée, et il lui importe peu d'être estimée ou non. Vous voyez, elle donne deux dépassements. Quand on s'approche de Dieu, qu'on plonge dans la miséricorde de Dieu, si on ne ressort pas avec une spontanéité pour le pardon, c'est qu'on n'est pas, on ne s'est pas plongé dans la miséricorde de Dieu. Donc c'est hein, bon. Et puis l'autre, c'est que on n'est pas atteint. Si on s'approche de Dieu hein, et de cette solidité de Dieu qui nous constitue, qui nous gracie, eh bien on reste, j'allais dire, comme un rocher. On n'est pas atteint. Vous voyez ça ? Il y a une autonomie par rapport à toutes ces injures et toutes ces offenses. Ça, on n'est pas blessé. Vous voyez ça ? C'est intéressant, ça. Donc, elle dit, les véritables contemplatifs peuvent certes ressentir de la peine pour une offense grave ou une épreuve. On ressent de la peine. Mais passé un premier mouvement, ils se rendent compte que par là, ils reçoivent les biens du royaume. Et lorsqu'on leur témoigne de l'estime, ils préfèrent dire leur péché. Celui qui reçoit de Dieu la grâce de posséder cette humilité et ce grand amour est si oublieux de soi lorsqu'il s'agit de servir Dieu davantage qu'il n'imagine pas qu'on soit sensible à certaines choses et qu'on y voit des injures. Donc, on est passé d'une hypersensibilité, non pas à une insensibilité, mais on dépasse. On est passé à une maturité spirituelle qui est capable de dépasser cette hypersensibilité du moi. Si on ne peut pas dépasser ce moi et cet honneur offensé, c'est qu'on ne s'est pas véritablement uni au Seigneur dans l'oraison. Elle dit, on pourra ne pas posséder d'autres vertus, mais celle-ci ne saurait faire défaut. Donc, s'il y a une véritable union contemplative avec Dieu, il faut que ça apparaisse dans la spontanéité pour le pardon et pour le dépassement des injures. C'est quelque chose de très impressionnant. Elle dit, 36, 12, 776, « Je ne puis croire, en effet, que l'âme qui s'est approchée de si près de la miséricorde même, la miséricorde en personne, Dieu, où elle connaît ce qu'elle est et combien Dieu lui a pardonné, ne soit pas capable de pardonner tout de suite et très facilement, c'est ça que j'ai appelé spontanéité, hein, et ne soit pas prête à se réconcilier avec ceux qui l'ont offensée, car elle a présente à la mémoire la joie et la grâce reçues de Dieu, où elle a pu voir le gage d'un si grand amour. Elle se réjouit donc d'avoir l'occasion de prouver un peu le sien en retour. » Ça va loin, hein? C'est élevé quand même tout ça. Hein? Voilà. Donc on peut retirer de cela deux convictions, très originales et très profondes, et le censeur n'a pas vu ça, c'est normal. Hein? Mais elles sont très imbriquées dans le commentaire de cette cinquième demande du pater. La spontanéité pour le pardon est le test de la contemplation, la preuve de l'union avec Dieu. Premier point. Et deuxième point, le pardon de Dieu est et sera toujours sans commune mesure, sans proportion, avec le pardon que nous pouvons donner au prochain, pour des offenses qui sont si peu de choses par rapport à celles que nous commettons envers Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y a pas de proportion entre le pardon que nous pouvons donner et celui que nous recevons de Dieu. Il n'y a pas de proportion entre les offenses que nous commettons envers Dieu et celles que le prochain commet envers nous. Il n'y a pas de proportion. Il n'y a pas d'égalité. Vous pigez ça? Vous comprenez, pardon? Ça? Voilà la conviction de Thérèse. Et c'est vrai qu'une contemplative, hein, je crois que c'est très caractéristique, elle vit davantage, elle reconnaît davantage ce qu'elle reçoit de Dieu que ce qu'elle peut faire pour le service de Dieu, pour répondre à sa miséricorde. On mesure davantage ça. C'est ça la logique de l'union contemplative avec Dieu. On reconnaît davantage, on mesure plus encore ce qu'on reçoit de Dieu que ce qu'on peut faire pour répondre, pour limiter. C'est peu de choses en comparaison, en proportion. Est-ce que vous saisissez tout cela? Vous voyez qu'elle est allée très loin quand même, hein, très très loin, dans cet esprit de réconciliation. Voilà, nous faisons la pause. Il est donc 38. J'avais le droit jusqu'à 48.
Je vous mets les choses si vous voulez voir maintenant.